Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Nous sommes en guerre.
Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
Ah, ça va me coûter combien ?
Je m'en fiche. Royalement, totalement, présidentiellement.
Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie.
J'avais un grand-oncle maternel à Montargis, si vous voulez tout savoir.
NUPES, cette pétaudière en réalité.
How dare you ! You have stolen my dreams.
J'entends votre émotion, Dolores.
Écoutez, je crois que clairement, vous n'êtes pas très chaud pour les vaccins.
Quoi, puisque je ne supporte pas les vaccins, d'accord ?
Bonjour, madame le ministre. Quel est le climat en arrivant à Kiev ?
Magnifique. Et c'est beau.
Nous sommes en guerre.
On ne peut pas avoir confiance en des gens qui ont des casseroles, c'est même plus des casseroles, c'est une cuisine complète au cul.
Non, pas Berkov.
C'est quoi votre problème, quoi ?
Il faudra bâtir des amendements dans une volonté d'union et d'action pour la nation, qui concerne toutes les forces politiques.
Eh bien voilà, Macron a parlé, Jupiter s'est exprimé de sa montagne de l'Élysée. Qu'a-t-il dit ? Eh bien, on va décrypter tout cela, bien sûr. Et on va décrypter surtout la fin d'un certain système et la résurrection, aux joies miracolo de l'Assemblée nationale. En tout cas, apparemment, on verra. Et puis, nous allons recevoir Alexandra Henrion-Code. Alexandra Henrion-Code, généticienne, qui va parler, elle en parle depuis déjà 2 ans, en disant les vaccins, ce qui se passe, la thérapie génique, les effets secondaires et indésirables. Elle n'est pas anti-vax, elle est scientifique. Elle parle. Et puis, évidemment, nous allons faire tout ce qui se passe un peu partout. Et nous allons faire ensuite une spéciale Liban, à l'occasion d'un livre sur un président libanais qui a été assassiné il y a 40 ans tout juste, Béchir Gemayel. Que représente-t-il pour le Liban ? Qu'est-ce que veut dire le Liban ? Alors, on parle de libanisation de la France. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ? On en parle avec Youmna Gemayel, la fille de Béchir Gemayel. A tout de suite.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Et oui, hier, Emmanuel Macron s'adressait à qui ? Évidemment aux Français, à la télévision, mais aussi évidemment aux députés fraîchement élus de l'Assemblée nationale reconstituée. Et alors, qu'est-ce qu'il s'est dit ? C'est très intéressant. Vous savez, il faut toujours décrypter tout ça. Écoutez.
Sud Radio, André Berkov.
Ça balance pas mal.
Berkov, dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio.
Je vous ai compris !
Alors ça, pour ceux qui n'étaient pas encore nés, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, c'était le général de Gaulle à Mostaganem en 1958. Il est venu, il a vu, et il a dit « Je vous ai compris ». Pour les gens qui étaient à l'Algérie française, ils ont dit « Ça y est, l'Algérie est sauvée, elle restera française ». Et pour les gens qui étaient dans la tête du général de Gaulle, ou en tout cas qui connaissaient ses pensées profondes, eh bien il a dit « L'indépendance est en marche ». Alors, on ne peut pas comparer, évidemment, et comparaison n'est pas raison. Est-ce que Emmanuel Macron a fait son « je vous ai compris » hier soir à la télévision en s'adressant aux Français et aux élus ? Eh bien, je ne sais pas. En tout cas, écoutez déjà quelque chose, c'est très intéressant, le « en même temps » d'Emmanuel Macron, le tout et son contraire, et il le fait avec, je dois dire, une habileté qui fait l'admiration des foules, en tout cas d'un certain nombre. Voilà ce qu'il disait, écoutez bien, le 10 avril, le soir du premier tour, et ce qu'il a dit notamment hier. Écoutez.
J'invite solennellement nos concitoyens, quelle que soit leur sensibilité et quel qu'ait été leur choix au premier tour, à nous rejoindre. Certains le feront pour faire barrage à l'extrême droite. Et je suis pleinement conscient que cela ne vaudra pas soutien du projet que je porte, et je le respecte.
Le 24 avril, vous m'avez renouvelé votre confiance en m'élisant président de la République. Vous l'avez fait sur le fondement d'un projet clair et en me donnant une légitimité claire.
Alors là, c'est pas beau. Le 10 avril, premier tour, il faut convaincre pour le second tour. Et qu'est-ce qu'il dit ? Je suis conscient que pas mal d'entre vous ont voté pour éloigner le Front National ou le Rassemblement National et pas du tout pour le projet. Eh bien, hier, et rappelez-vous entre les deux, il a aussi dit, pas une voix ne doit manquer à la République. Et la République, c'est moi, bien sûr. Et puis là, hier soir, eh bien, vous m'avez élu sur un projet. Attendez, je comprends pas, mais le projet, c'était pas ça, le 10 avril. Voilà, alors, c'est très intéressant parce que Emmanuel Macron, et c'est bien, il découvre qu'il y a un Parlement. Ben oui, pendant 5 ans, et Hollande non plus, et Sarkozy non plus, et le second Chirac non plus. Le Parlement, c'était le parti présidentiel, donner une majorité au président, et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et tout d'un coup, majorité relative. Comment ? Je suis le monarque absolu, je suis le président absolu, la Ve République a été créée pour ça, et voilà-t-il pas que ces Français ingrats élisent mais des gens très divers. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Macron ? Alors voilà ce qu'il propose, écoutez.
Il faudra bâtir, comme je l'expliquais, des compromis, des enrichissements, des amendements, mais le faire en toute transparence, à ciel ouvert, si je puis dire, dans une volonté d'union et d'action pour la nation, qui concerne toutes les forces politiques, à commencer par la majorité présidentielle, mais toutes les autres, mais aussi les forces vives, les partenaires sociaux, les élus, les associations, nous tous. Pour cela, il faudra clarifier dans les prochains jours la part de responsabilité et de coopération que les différentes formations de l'Assemblée nationale sont prêtes à prendre.
Ça c'est clair. Hein. Alors il faudra clarifier, mais alors quel discours, quelle précision dans les termes, quelle sémantique acérée. Il faudra, voilà, les forces vives, il faudra travailler avec tout le monde, etc. Mais enfin, votre rôle, Monsieur le Président, c'est de présenter votre projet, et puis les parlementaires, eh bien, ils vont voir votre projet, en discuter, etc. Vous leur dites « entendons-nous », mais avant de vous entendre, il faudrait exactement vous entendre à vous, sur votre projet. Et avouez qu'entre l'Ukraine et tout ça, et la présidence de l'Europe, vous n'avez pas eu beaucoup de temps, c'est vrai. Vous n'avez pas eu de temps. Alors, vous dites, allez, dans les 48 heures, vous trouvez un mode de coopération. Mais vous savez ce que ça s'appelle ? Eh bien, ça s'appelle la démocratie, les contre-pouvoirs, la démocratie parlementaire. Et ça va faire, eh bien, peut-être, pour une fois, eh bien, on va discuter. Pour la première fois, il n'y aura pas une chambre d'enregistrement, il n'y aura pas des Playmobil, il n'y aura pas des godillots. Il y aura une discussion. Oh, joie, joie, pleure de joie. Miracolo, miracolo. Eh bien, écoutez, il faudra s'y habituer. Vous, comme nous.
Et tout de suite sur Sud Radio, nous recevons Alexandra Henrion-Caude, généticienne, ancienne directrice recherche de l'hôpital Necker à Paris.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour.
Et moi, je suis encore au Moyen-Âge, avec mon masque sur le visage. Alors je crie, vaccinez-moi. Mais les labos sont tous en surmenage, et il y a des problèmes d'arrivage. Alors on fait avec ce qu'on a.
Évidemment, les goguettes, parodie, les goguettes, vous savez, les Pfizer. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et ça fait longtemps qu'on en discute, ça fait maintenant 2 ans et demi que nous sommes dans cette situation. Alors, les provax, les antivax, les polémiques, mais il y a quelque chose quand même qui est là, il y a des faits, il y a des discussions, et à un moment donné, on veut savoir. Alors, Alexandra Henrion-Caude, bonjour. Vous êtes généticienne, vous êtes titulaire d'un doctorat en génétique de l'Université Paris Diderot, vous êtes ancienne directrice de recherche de l'hôpital Necker à Paris, et vous avez envoyé un tweet en me mentionnant, mais ce tweet m'a interpellé. Vous disiez ceci, je vais essayer de garder mon calme et de retenir mes larmes. Le produit qu'on injecte massivement et dont on réclame une quatrième dose affecte le cycle menstruel d'une femme, au moins 10% des femmes, réduit de 22% la motilité globale des spermatozoïdes, etc. etc. Alors, Alexandra Henriot-Claude, on vous connaît, alors certains vous louent, d'autres vous hégémonie, on vous traite de sulfureuse, mais vous n'avez pas changé de cap depuis 2 ans et demi que vous avez lancé l'alerte, vous avez donné l'alerte. Alors, où en est-on aujourd'hui ?
Mais écoutez, d'abord merci de me recevoir. Vous le dites justement, effectivement, l'image qu'on a donnée de moi est tellement détestable que je comprends tous ceux qui me détestent, puisque moi-même, si j'étais confrontée à cela, je détesterais cette personne. Donc merci. Eh bien, je vous avais dit à la première fois que j'étais venue en novembre 2020, toute première fois. Je suis pas venue souvent, je suis venue trois fois. C'est la quatrième fois. Et la première fois, je vous avais dit, j'ai l'impression qu'on est revenu au temps des devins. Hélas, c'est...
Religion.
Voilà, ouais. et c'était parce qu'on nous prédisait des vagues que mon collègue Laurent Toubiana très largement déconstruit, démonté pour l'affaire, pour essayer de donner des chiffres derrière ces éléments de langage. Et je constate que ces éléments de langage deviennent de plus en plus catastrophiques, c'est-à-dire qu'on acquiert un nouveau langage. Par exemple, il devient banal, entre guillemets, qu'une femme soit ménopausée à 30 ans. Non, ça n'est pas normal. Ça devient normal.
Il y a eu plusieurs cas de ce genre.
Oui, évidemment, sinon je ne les rapporterai pas. Ouais. Ça devient normal qu'on parle de myocardite, péricardite. Saviez-vous seulement ce que ce mot signifiait il y a de ça 2 ans ? Ça devient normal que des jeunes en souffrent. Et vous voyez comment petit à petit, on est... Et puis alors ça devient normal que quand on vaccine une population, et pourtant je faisais partie de ceux qui croyaient en la vaccination, quand on vaccine une population à hauteur de 85, 90, 95%, il est normal de voir des pics épidémiques ressurgir et donc d'alterner ainsi des campagnes de vaccination, des pics épidémiques, des campagnes de vaccination, des pics épidémiques. Et on a l'impression qu'on prend ce rythme. Donc, de là où on était sur des devins, je crois qu'on est sur tombé dans une propagande sur un produit qui n'a pas fait ses preuves, qui n'a pas apporté la protection que nous aurions aimé qu'il apporte. Et donc, en fait, je suis extrêmement malheureuse. Et effectivement, je peux le dire, je souffre au quotidien parce qu'en fait, moi, je suis confrontée tout le temps aux victimes de ce système, d'une façon générale. Je dois avouer que... Voilà, j'ai... Donc, voilà, c'est le fait de dire... Mais, Il y a cet aspect-là. Il y a aussi le...
Alors, juste un mot, Alexandra Henriot-Claude. Vous avez dit, et je crois que c'est un peu le nœud du problème, et vous avez dit quelque chose de très fort en quelques mots, qu'on soit d'accord ou pas, mais vous dites il faut arrêter de traiter la population saine comme si elle était malade. Donc, c'est ça qui s'est passé.
Ça qui se passe.
C'est ça, que tout le monde est traité comme s'il était potentiellement malade.
C'est ça, et on a dérivé en même pas 2 ans à une maladie qui ne parle que à une médecine qui ne parle que d'une maladie. Donc ça devient la médecine d'une maladie, en l'occurrence le Covid. Je crains que ce soit la médecine d'une autre maladie. Là, en Angleterre, on est en train de parler de cas de polio. On a aussi parlé des cas de variole du singe. Donc on voit poindre le fait qu'on devienne à chaque fois une médecine d'une maladie avec une seule solution thérapeutique qui est évidemment la solution vaccinale, dite vaccinale, parce que ce sont tout le temps en vérité des injections géniques qui nous sont proposées. Donc on voit ce rythme qui est en train de prendre racine où on alterne 3 étapes. Première étape, on nous fait peur en disant « oulala, il y a un nouveau variant, il y a une nouvelle vague qui va arriver » et on est en plein dans cette psychose.
Oui, c'est revenu là,
qui revient.
Les nombres de cas qui explosent,
voilà,
etc.
Voilà.
Etc.
Deuxième étape, et je ne juge pas si elle est fondée ou pas, cette première étape, mais voilà. Deuxième étape, on vous dit qu'il faut vous séparer les uns des autres. C'est là où je dis on traite la population saine comme si elle était malade. C'est-à-dire que ça devient la priorité de 100% des individus, de nos compatriotes. Et on doit se séparer, ne plus se toucher, ne plus serrer la main, se donner des coups de poing, mettre des masques et se tester et s'isoler. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, et évidemment, j'ai une solution pour vous. Rassurez-vous, c'est cette vaccination chronique, cette fameuse AVC, abonnement vaccinal chronique, qui finalement...
Pas par hasard, vous avez choisi ça. Hein.
Écoutez, j'aime bien... D'habitude, je n'aime pas les acronymes, mais celui-là, je me suis permis
de je sens. Vous l'avez choisi avec beaucoup de précision.
Voilà,
vous dites A, c'est pour...
Abonnement.
Oui.
Vaccinal,
oui.
Chronique.
Chronique, d'accord.
Et on voit bien que c'est cela, puisque là, on est d'ailleurs en train de nous parler d'un vaccin qui marcherait contre Omicron, que Moderna a développé. Donc on voit que désormais, cette médecine que nous affectionnons enfin, vraiment très fortement, dont j'estime qu'elle était très puissante. Toutes ces prévisions que j'avais faites, toutes ces alertes, ce n'étaient pas des prévisions, c'était uniquement basé sur la littérature scientifique. Donc on était bon. On est fort, on n'est pas des ignorants, on connaît les choses et
complotistes, vous n'êtes pas une complotiste.
Non, alors, ça, vous savez très bien que j'ai toujours été détesté ce terme-là, je continue honnir. Certains disent, ah ben non, c'est une décoration que tu as. Non, ce n'est pas une décoration que d'être insulté.
Revenons à la science, vous avez raison, on reste avec vous, Alexandra Ricaud, en parlant quelques temps encore, on prend le temps, après cette petite pause, à tout de suite.
Et n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 pour y réagir.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Alors, Covid, pandémie, maladie mondiale, masque, vaccin, le monde entier, effectivement, a été et s'est mobilisé là-dessus et continue de le faire, évidemment. Il s'agit d'empêcher le monde de mourir. Mais comment et de quelle façon? Et on voit très bien qu'un peu partout, aux États-Unis, plusieurs États, c'est autonome, décident de ralentir un certain nombre de vaccins, surtout pour les enfants, on va en parler. D'autres, par exemple, en Afrique ou en Inde, ils disent, attendez, ils ont dit à certains labos, oui, mais on veut que vous preniez la responsabilité, sinon, nous, on ne les prend pas, etc., etc. Et puis, ce matin, on parlait évidemment d'une augmentation extraordinaire, en tout cas très importante, du nombre des cas en France, comme si on disait, tiens, la guerre d'Ukraine s'enlise, on en parle un peu moins, est-ce qu'il n'est pas temps de ressusciter les vagues et les cas? Écoutez sur RMC ce matin.
Le nombre de cas est sûrement sous-estimé. Les souches BA4 et BA5 arrivées il y a 2 mois en France devraient être dominantes d'ici 1 à 2 semaines, car ces nouveaux variants, et c'est là le problème, infectent plus facilement les personnes immunisées. Une immunité en légère baisse puisque les vaccins et les infections commencent à dater de plusieurs mois. Plusieurs spécialistes appellent donc à relancer la campagne de 4e dose pour les plus fragiles. Pour le moment, ils sont moins d'un tiers chez les plus de 80 ans à l'avoir reçue.
Alexandra Ricaud, vous pouvez décrypter. C'est intéressant quand
c'est
même.
C'est intéressant quand même. Voilà, c'est-à-dire que, alors, je suis contente d'entendre ça sur une radio qui n'est, sur une chaîne qui n'est visiblement pas taxée de complotisme.
C'est clair.
Parce que cela, pour une fois, corrobore magnifiquement les études des publications scientifiques qui sont sorties ces derniers temps. Un Lancet, The New England Journal of Medicine, qui vont exactement dans le même sens, que vous avez un effondrement de votre réponse immunitaire, que ce soit au niveau de vos anticorps et de façon plus préoccupante de votre réponse, cellulaire, qui est rythmée par la répétitivité des injections. Ce que je ne comprends pas dans cette intervention, pourquoi il n'y a pas la conclusion.
Donc, il dit il faut la 4e dose.
Voilà, c'est là où les bras m'en tombent. En général, on dit on ne change pas une affaire qui gagne. Alors, je me demande où est le gain. parce que là, en revanche, ça n'est pas une affaire qui gagne, c'est une affaire qui signe son échec. Car encore une fois, une vaccination, si vous êtes vacciné contre le tétanos et que vous chopez le tétanos, est-ce que vous allez me dire que le vaccin fonctionne et qu'il faut reprendre une dose ? Logiquement, vous réagissez sainement et vous dites « Eh, je crois que je n'étais pas protégé par ce vaccin ». Très bien, bonne conclusion. Alors pourquoi n'avons-nous pas la même conclusion sur ces vaccins anti-coronavirus ? Quelle mouche nous a piqué pour que nous ne comprenions pas qu'à partir du moment où nous sommes vaccinés, nous devons être protégés, que si nous ne sommes pas protégés, c'est que le vaccin ne fonctionne pas. Et pire que cela, ce vaccin a des effets indésirables très importants. Et ça, vraiment, alors je sais que le gouvernement a donné l'apparence, la mascarade, d'écouter, d'auditionner les victimes.
Au Sénat, la commission d'enquête du Sénat.
Mais quand on lit leur rapport et quand on voit que les noms de mes collègues, en l'occurrence le docteur Amin Umlil et le docteur Orsolnier, ne figurent pas dans les propos rapportés dans cette audience, alors qu'il n'y avait que trois voix dissonante contre les autres, contre la dizaine d'autres.
Oui, vous dites qu'il y a un problème, là.
Je dis qu'il y a un problème, mais je vais même aller plus loin. Je vais même parler de négationnisme de la terrible réalité des effets indésirables. Parce que effectivement, nous y sommes confrontés. Quand je vous interpelle sur mon tweet, c'est qu'effectivement, j'étais assez désespérée. Qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Véran nous a donné la propagande que ces vaccins n'altéraient pas la fertilité, la fertilité tout court.
Oui.
Quelle est la réalité des choses ? Le ministère de la Santé israélien dit qu'il y a 10% des femmes qui souffrent de troubles menstruels, sans qu'on ait la moindre idée de quel est l'impact sur leur fertilité. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que le cycle menstruel est assez central à la fertilité des femmes. Et quant aux hommes maintenant, on a pris des donneurs de sperme, on les a pris avant vaccin. C'est une étude israélienne. On les a pris post-vaccin, dose 1, dose 2. On les a pris à des temps étalés dans le temps. Mm-hmm. C'est une étude tout à fait remarquable qui n'appelle aucune critique et qui démontre que la motilité globale, en fait, c'est un paramètre qui tient compte à la fois du volume du sperme, à la fois du nombre de spermatozoïdes et à la fois de la motilité. Eh bien, ce paramètre, qui est le paramètre de la fertilité, est réduit de 22% par les vaccins.
Et ils établissent la corrélation.
Mais ils l'établissent parce qu'ils ont pris chez ces mêmes personnes. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est chez mêmes donneurs de sperme, ils ont pris avant. Et après. Donc c'est incontournable. Et qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'effectivement, il y a un souci. Alors, Dieu merci, dans cette étude, il montre que c'est réversible à T3, leur troisième temps. Dans le temps, ça semble revenir à des paramètres normaux. Mais je pose exactement la même question que je pose pour les femmes. Est-ce que c'est parce que votre cycle menstruel revient et que votre TMC, donc ce paramètre global de la fertilité des hommes, revient ? Est-ce qu'il n'y a pas une altération plus profonde ? Parce qu'il y a finalement cette interaction du tissu qui supporte vos spermatozoïdes ou vos ovocytes et qui nourrit vos cellules. Donc il y a une question majeure. Il y a d'un côté la propagande, ça n'altère pas la fertilité, et d'un autre la réalité qui observe un certain nombre de dysfonctionnements rapportés même par des ministères de santé israéliens.
Oui, mais Alexandra Ayoko, le problème toujours se pose. On dit, mais écoutez, on a vacciné des milliards de personnes.
C'est d'autant plus préoccupant.
Oui, mais est-ce que ces milliards de personnes, franchement, vous n'avez pas des cercueils dans les rues, vous n'avez pas des gens allongés en train d'agoniser.
Oui.
Je veux dire, est-ce qu'on n'est pas en train de... Alors, on avait peut-être gonflé l'angoisse, est-ce qu'on n'est pas en train de gonfler les dangers ?
Oui, alors, vous avez raison de... Et c'est toujours un travers possible, et donc je veille à moi-même, surtout que je suis sensibilisée sur le sujet, sur le plan émotif, donc vous avez complètement raison qu'il faut savoir raison garder, mais quand base de données de l'OMS vous rapporte 3,9 millions d'effets adverses graves, d'effets secondaires graves.
3,9 millions d'effets adverses.
Oui. Vous vous dites, pas que dans ma tête. Ouais. Quand dans ces 3,9 millions, ce sont la deuxième catégorie dans l'ordre, c'est des troubles neurologiques, vous dites, donc en fait, il y a véritablement un problème. Et quand vous prenez la distribution par âge, je ne sais pas si on peut montrer ce graphe qui est assez simple de cette base de l'OMS.
Montrez-le à la caméra.
La caméra étant
là.
Là. Alors,
voilà,
comme ça.
Approchez, oui, très bien. Voilà.
Voilà.
Très bien,
Alexandre. Eh bien, en fait, on voit la distribution par âge de ces effets indésirables graves. Mmh. Et vous voyez qu'évidemment, celles des extrémités vont être les plus jeunes et les plus vieux, respectivement. Et celle du milieu, celle la plus importante, ce sont les 18-44 ans. Cela, pour moi, est très préoccupant. Alors, non, je ne crois pas que ce soit que dans ma tête, ou alors c'est aussi dans la tête de beaucoup de victimes. Non, mais c'est important, oui. Et vous avez raison d'insister, parce que, je ne fais pas partie de ceux qui ont dit « tout le monde va mourir ». Vous le savez très bien, je vous ai dit « ah, il y a plus d'effets de formes graves ». Ça, c'était lorsque j'étais venue chez vous en décembre 2020. Je vous alertais sur la base des données de Pfizer qu'il y avait plus de formes graves dans le groupe vacciné que dans le groupe placebo. Alors, évidemment, les gens s'attachent fortement à ce que ça protège des formes graves. Alors, ça, c'est vraiment le dernier bastion, parce que comme ça ne protège pas de la transmission, ni de la...
Ça, tout le monde le sait aujourd'hui, ça.
Voilà. Mais sur les formes graves, les gens le savent moins. Et continuent à vous dire... L'autre jour, j'ai écouté cet Américain, journaliste, qui interrogeait le docteur Fauci, et qui disait... Il avait été hospitalisé d'un Covid après être triple vacciné, et qui disait « Heureusement que j'ai été vacciné ». Parce que je n'ai pas eu la forme grave. Alors là, vous dites, mais alors écoutez, là vraiment, les bras, voilà, encore une fois, les bras m'en tombent. Donc vous voyez qu'il y a un décalage, et je le comprends, parce que quand vous avez fait quelque chose auquel vous croyez et que vous pensiez que c'était bien, ou alors que vous l'avez fait pire, contraint et forcé, pour des raisons de passe, et ça serait aussi important de revenir, à ce moment-là, vous allez trouver toutes les justifications de la Terre, parce que vous ne pouvez pas vivre dans l'angoisse. Et je fais partie de ces gens qui disent à tout le monde, rassurez-vous, nous mourrons tous, et donc pour essayer de détendre l'atmosphère, bien entendu. En revanche, pourquoi j'alerte autant? Parce que je considère qu'il y a toujours des solutions, et que c'est pas parce que vous avez été injecté par quelque chose qui effondre régulièrement votre réponse immunitaire, qu'il n'y a pas une solution. Quelle est la solution? Arrêtez de vous injecter, et normalement, en toute logique, vu ce qu'on vient de voir sur l'étude sur les spermatozoïdes, eh bien, on peut espérer que le corps puisse réparer.
Alors, deux choses, deux questions, Alexandra Henrion-Caude. Est-ce que la déclassification des tests de Pfizer, de la fameuse étude, 85 000 pages, souhaitait effectivement que ce soit protégé pendant 50 ans ou 70 ans. Un juge a dit le contraire. Est-ce que ça a montré aussi que ce n'était pas tout à fait au point?
Oui, alors je dois avouer que de ce que j'en ai vu, parce que je ne vous cacherai pas que je n'ai pas,
ce livre
de chevet avec ses 85 000 pages, cela conforte ce que les études de Pfizer montraient à la base. Et en fait, on est sur une démonstration de ce qu'on a vu sur des petits effectifs et qui effectivement appelle à la plus grande vigilance. Là où je suis plus inquiète, c'est sur le vaccin, par exemple, les injections géniques des enfants, parce qu'il y a véritablement triche. C'est-à-dire que...
On est sûr que les enfants n'ont pas...
En fait, vous voyez, dans ces publications de Pfizer, j'arrivais simplement en lisant l'article à trouver les informations qui montraient le contraire de la propagande et de ce qui était marqué. Ouais. Bon, tandis que là, les nouveaux articles, par exemple sur l'injection des enfants, ils ont pris 4000 enfants dans leur étude. 3000 ont été sortis de l'étude. Vous imaginez cela ?
Ont été sortis de l'étude.
Sortis de l'étude.
Ne sont pas mentionnés.
Ne sont plus. Voilà, c'est-à-dire que vous prenez. Vous rapportez que vous avez fait une étude sur 4500 enfants. En vérité, vous avez sorti 3000 enfants. Et à la fin,
on ne sait pas pour qui, on ne sait pas ce qui s'est passé.
Pas sur 3000, effectivement, c'est trop. Donc vous voyez, ça c'est très embêtant parce qu'il y a de la manipulation. Et il y a la manipulation des données, c'est très très préoccupant.
Bah, c'est évident. Alors, au fond, vous dites aujourd'hui, ça me rappelle un slogan de 68, on arrête tout, on réfléchit et c'est pas triste. Vous dites, on arrête tout.
Oui, on arrête tout. On continue. Oh, non,
on
parce que j'ai trop de respect et de vraiment encore une fois d'admiration sur tout ce que nous avons pu acquérir au cours de ces dernières années.
Vive la science et la médecine. Quand
voilà,
même, quand
pour, pour soigner notamment les cancers, mais là on voit des cancers qui échappent à la médecine. Hein. On les appelle entre nous des turbo-cancers. Ouais, donc c'est quand même très, très préoccupant. Donc non, non, moi je dis continuons à soigner, mais arrêtons de faire une médecine d'une seule maladie. Et arrêtons de faire croire qu'il n'y a qu'une seule solution, surtout qu'elle démontre ses limites, non seulement dans la réponse à la maladie, mais en plus sur les effets indésirables. C'est assez structuré ce que je dis, et je crois que... Voilà,
Et vous dites, et arrêtons de traiter la population saine comme si elle était malade.
Et arrêtons de... Et réhabilitons le fait de se laver les mains. J'entends trop d'écoles où il n'y a toujours pas de savon dans les toilettes. Je suis désolée de dire qu'on ne peut pas d'un côté dire « Ah, on va tous mourir d'une maladie » et ne pas avoir de savon accessible dans, dans le train récemment. Encore une fois, les nombres de fois où vous n'avez plus de savon.
Il y a le gel.
Pas dans le train.
Même pas dans le train.
Même pas dans le train. Non, franchement. Non, mais puis de toute façon, voilà, rien ne remplace de l'eau et du savon avec une bonne dilution et un bon
rien ne remplace une médecine indépendante et qui traite.
Et un suivi médical, parce qu'effectivement, dès lors que vous perdez le suivi médical des médecins qui vous suivent, vous avez une perte de chance qui me semble aussi très grave. Tant qu'on dit c'est une urgence. Et bien dans l'urgence, à chaque fois, on perd beaucoup de gens qui n'auraient pas dû mourir.
Merci Alexandra Henrion-Caude. Eh bien avec vous, on va suivre tout cela et on va voir. Et je dirais que qui verra, vivra.
Restez avec nous sur Sud Radio. Vous écoutez André Berkoff dans tous ses états. On est ensemble jusqu'à 14h. 0826 300 300. Nous serons avec Youmnéa Guémaïel, co-auteur de Bachir Guémaïel, mort assassiné le 14 septembre 1982, trois semaines après avoir été élu président de la République. A tout de suite sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
Bachir Guémaïel, qui fut trop peu de temps président de la République du Liban, assassiné il y a tout juste 40 ans. Et je suis très heureux de recevoir sa fille Youmnéa Guémaïel à propos d'un livre très intéressant, fait par Yann Bali, écrit par Yann Bali et par Emmanuel Pesé. Effectivement, le « Qui suis-je » aux éditions Pardès. Et c'est toujours bien de parler effectivement du Liban à l'heure où le Liban est invoqué comme exemple ou contre-exemple de ce qui se passe notamment en France. Et on va peut-être remettre les pendules à l'heure et l'église au milieu du village. Mais auparavant, on va parler de la nouvelle Assemblée nationale, rapidement.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
Oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Oh, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. La Troie sans ans.
Ben, 1789, Edith Piaf qui ressuscite une grande chanson évolutionnaire. Alors, c'est intéressant parce que cette Assemblée nationale qui vient d'arriver, là elle vient d'être élue, hein, dimanche soir. Eh ben, écoutez. Alors on disait, vous savez, c'est toujours pareil, c'est les Ménies de Velasquez, c'est toujours les mêmes, c'est consanguin, il y a que des cadres, qu'il y a des fils d'eux, etc., etc. Oui, oui, il y en a beaucoup de cadres, c'est vrai. Mais enfin, il y en a beaucoup moins qu'avant. Et il y a, il faut le dire, comme José Borin, fraîchement élu député RN, eh bien, première personne aveugle, première députée aveugle à rentrer au Palais Bourbon. Vous avez des femmes de chambre, vous avez des ouvrières agricoles, je parle de gens qui étaient, effectivement, qui sont là-dedans. Laurent Alexandre, un ouvrier, une éducatrice spécialisée, une factrice à la retraite, une secrétaire, pompier, prof de SVT, un chauffeur-livreur, une ex-femme de ménage, Rachel Kéké, on en a beaucoup parlé ici même, viticulteur, marin, maire au foyer, commerçant à la retraite, policier, effectivement. Ben écoutez, c'est pas mal. Alors effectivement, on peut dire, on corrige, oui, mais la part d'ouvriers d'employés à l'Assemblée ne cesse d'augmenter depuis 15 ans. Elle était de 1,7%, vous imaginez, hein, l'Assemblée qui représente le peuple français. En 2007, elle est aujourd'hui de 5,4%. Les cadres étaient 67% en 2017. Ils sont 5 ans après, 58,4%. Donc il y a une véritable baisse. Et heureusement, il y a d'autres représentants du peuple qui sont là. Et il n'était que temps.
Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face.
Et je reçois donc Yumna Gemayel. Bonjour.
Berkov.
Écoutez, très heureux de vous recevoir pour parler effectivement du Liban et de votre père à l'occasion de ce livre. Et c'est, on parle toujours, mais votre père effectivement qui était un combattant, qui était quelqu'un qui avait beaucoup de courage et qui représentait effectivement une identité libanaise. Et justement, je voudrais qu'on en parle avec vous parce que au fond. Pour beaucoup de gens ici, le Liban, c'est Beyrouth, c'était la guerre, c'était. On parlait du Liban et vous savez quand ça n'allait pas, tout ça, quand il y avait un désordre quelque part, ah, c'est Beyrouth, c'est Beyrouth. Sauf que Beyrouth, c'est autre chose aussi, et le Liban, c'est autre chose aussi. Alors, si vous aviez vous à dire aujourd'hui, ce Liban, on sait qu'il traverse des moments très difficiles. On sait qu'il y a la crise économique, il y a la guerre des autres. Hein. On a toujours fait la guerre au Liban par procuration. C'est-à-dire toutes les puissances autour se faisaient la guerre au Liban, c'était plus facile, hélas. Mais qu'est-ce que vous dites du Liban d'aujourd'hui et surtout de l'idée, de certaines idées du Liban qu'avait notamment votre père?
Aujourd'hui, le Liban, ce qu'on vit au Liban, en fait, donc on est passé par différentes crises, par différentes guerres. Ce qui est resté du Liban, et après on parlera de l'idée de Bachir du Liban, oui. Et aujourd'hui c'est un esprit libanais, c'est vraiment un esprit de coexistence, un esprit où toutes les communautés vivent ensemble, et ça peut se faire. Cette union nationale.
Vous pensez que c'est toujours possible?
Bien sûr. Oui. On l'a vécu en 1943 quand on a pris notre indépendance. Donc il y avait les musulmans et les chrétiens qui se sont mis d'accord pour prendre leur indépendance du mandat français. Et on a revu aussi durant l'époque de Bachir, justement durant ces 21 jours de mandat, justement cette union nationale autour du projet de Bachir. Donc on avait les chrétiens et les musulmans qui avaient ensemble décidé de construire un Liban autour de ce jeune président élu, mais qui n'est resté élu malheureusement. Et là, son mandat, voilà, n'a duré que 21 jours. Mais c'était 21 jours qui ont réussi à modeler l'histoire du Liban jusqu'à aujourd'hui. Et on en parle 40 ans après, parce qu'il faut dire que Bachir a été assassiné il y a 40 ans. Et aujourd'hui, on en parle, il fait toujours partie du paysage politique.
Alors, qu'est-ce qui représentait Bachir avant de la présidence, puisqu'il a été élevé, enfin, vous parlez, le livre parle très bien de la famille Gemayel, qui date depuis des siècles, Big Faya, etc., la montagne, les phalanges créées par Pierre Gemayel, tout ça est raconté, et en fait... Quel est le sentiment de vos pères par rapport à l'identité libanaise? C'était quoi pour lui, cela? Et pour beaucoup d'autres, bien sûr.
Bachir s'est toujours battu pour le Liban. D'ailleurs, il a dit une phrase qu'on répète souvent. Il dit « On nous a attaqués en tant que chrétiens et on s'est défendus en tant que Libanais ». Donc l'identité libanaise pour Bachir était essentielle, c'était le cœur de son combat. D'ailleurs, on dit que c'était le président des 10 452 km², donc c'est la superficie du Liban. Et d'ailleurs, on dit également qu'il a été tué parce que c'était le président de cette union, de ce Liban de 10 452 km². Bachir était, à mon avis, un leader atypique. Il était humble, il était très proche de ses gens, il disait toujours la vérité, il parlait aux Libanais en libanais, parce que sinon au Liban on parle l'arabe, mais lui c'était le premier à parler en libanais, donc il rentrait dans le cœur de chacun des gens.
Avec ce dialecte libanais très particulier.
Exactement. Et donc, il a réussi à rentrer dans le cœur des gens, il a réussi à se faire comprendre par tout le monde, et il a réussi en fait à gagner donc le cœur de tous et à incarner un certain patriotisme qui est devenu contagieux par la suite.
Alors contagieux, effectivement, et on va en parler, on va prendre tout le temps d'en parler pour savoir si cette contagion, qui est une bonne contagion, le patriotisme gagne ou au contraire s'il perd. On en parle tout de suite après les informations avec Yumna Gemayel.
Et n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 si ce témoignage vous intéresse et si vous avez quelques questions à poser à André Berkov. A tout de suite sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
Yann Bali et Emmanuel Peset ont écrit ce livre sur Bachir Gemayel aux éditions Pardès. Et c'est vrai que Bachir Gemayel, nous sommes avec sa fille Youmna, et c'est vrai que Bachir Gemayel est resté, allez, est-ce qu'on peut dire quelqu'un de à part quand même dans l'histoire du Liban, en tout cas dans l'histoire récente, contemporaine du Liban. D'abord, effectivement, l'assassinat, enfin, très jeune, voilà, et 3 semaines de présidence, et évidemment, c'est le moins que l'on puisse dire, et qu'il gênait, et quand un homme politique ou autre gêne, il y a toujours des gens qui essayent, hélas, de s'en débarrasser, ils ont réussi. Et c'est qui, les assassins de Bachir Gemayel,
D'abord, il faut dire que Bachir n'avait que 34 ans quand il a été élu président et quand il est mort, quand il a été assassiné. Donc son parcours politique était très court, en fait. Donc Bachir, en 7 ans, a réussi à faire ce que des hommes politiques libanais n'ont pas réussi à faire en 70 ans de carrière politique. Bachir a été assassiné, à mon avis, par tous les gens qui détestent le Liban. Tous les gens qui détestent
l'existence même du Liban.
L'existence même du Liban, ou même l'existence de ce Liban où vraiment ce Liban prospère, ce Liban démocratique, ce Liban de liberté, ce Liban où il y a la dignité de l'homme. Alors bon, vous savez que 35 ans après la mort de Bachir, donc en 2018, on a eu le jugement. Donc l'État libanais...
35 ans après. Hein.
35 ans après.
Ouais, c'est long, ouais.
Et il faut dire que ce n'est pas l'État libanais qui a demandé à ce qu'il y ait, si vous voulez, justice. C'est nous, en tant que famille, on s'est porté partie civile. Mmh. Et en 2005, quand les Syriens, le retrait des troupes syriennes, on a refait fonctionner, en fait, donc...
l'appareil judiciaire.
Exactement. Etc. Et donc de 2005 à 2018, voilà, donc ouais. 13 ans plus tard, on a réussi à avoir le jugement. Donc la personne qui est condamnée, c'est... Habib Chartouni, qui est un membre du parti national syrien, donc qui a tué Bachir, c'était les Syriens à l'époque. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y avait 3-4 partis extérieurs au Liban, extérieurs du Liban, donc des Palestiniens, des Syriens, donc qui voulaient le tuer, et les Syriens, c'était les premiers à l'avoir réussi.
C'est ça, voilà. Oui, absolument. Alors, justement, vous dites, il est resté que 3 semaines, c'est vrai, mais il avait commencé une activité à la fois militaro-politique, c'était un chef de guerre aussi, enfin. Et mais pourquoi, il sentait qu'il fallait se défendre, qu'il fallait absolument avoir une défense, ils le disent, le livre est très clair là-dessus, enfin, qu'au fond, très tôt, au début, c'était son frère Amin qui devait faire de la politique, et lui, c'était pas ça, il était avocat, etc. Mais très tôt, il a pris conscience qu'au fond, si on ne veut pas disparaître, il faut se défendre.
Bien sûr, il faut... Je veux juste rectifier aussi des oui. choses qui sont un peu fausses dans l'esprit des Occidentaux. Ce qu'il faut savoir, c'est la guerre de 1975, quand la guerre a commencé, ce n'était pas une guerre civile. Donc, ce n'était pas une guerre entre chrétiens ou musulmans. C'était une guerre qui a résulté de la présence des Palestiniens, ce qu'on appelle...
Après, il faut rappeler Septembre Noir, ils étaient en Jordanie, et Hussein de Jordanie a éliminé pas mal les Palestiniens, et bien ils sont sûr. Partis au Liban.
Ils sont partis au Liban, donc, et avec les accords du Caire de 1969, ils ont été, donc l'État libanais leur a accordé le droit d'avoir des armes. Et ce qui s'est passé, c'est que leur prérogative donc d'avoir des armes pour lutter contre Israël, donc en fait ils n'ont pas lutté contre Israël, ils ont commencé à lutter contre les Libanais, en l'occurrence dans les régions chrétiennes. Et ici, Yasser Arafat a une phrase très connue qui dit que la route de la Palestine passera par Jounieh. Et donc là,
Jounieh est un port libanais très connu.
Et une région chrétienne ancrée dans le maronitisme. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les phalanges libanaises, à l'époque dirigées par Cheikh Pierre, donc mon grand-père, le père de Bachir, donc on avait tendance à les traiter de fascistes à l'époque, ce qui est complètement faux parce que ils n'ont pas.
Non, ils ont vu phalange et dans le cliché phalange égale facho, ce qui ne veut rien dire donc, quand on connaît un peu le Liban.
Et non, et surtout qu'en fait, si vous lisez le programme des phalanges à l'époque, c'est un programme radical socialiste. Ils ont d'ailleurs été les initiateurs de la réforme pour la sécurité sociale, donc tout leur combat était vraiment pour le social. En tout cas, à ce moment-là, les chrétiens se sont défendus parce que les Palestiniens sont venus et ils voulaient prendre notre pays. Donc on s'est défendu. On n'a attaqué personne. On n'a pas été en Palestine attaquer les Palestiniens. On n'a pas été en Syrie attaquer les Syriens. ils sont venus et on s'est défendu. Et c'est là, comme je vous l'ai dit, Bachir a eu cette phrase. Ils nous ont attaqués en tant que chrétiens. On s'est défendu en tant que Libanais.
Que Libanais, oui.
Donc, en fait, moi, je pense qu'il y a une injustice de l'histoire à rectifier ici. Ce n'est pas une guerre civile. Mm-hmm. Les chrétiens du Liban n'ont attaqué personne. Ce n'est pas des fascistes. Et je pense que c'est un crime médiatique qui en dit assez long sur la manipulation de l'opinion publique à l'époque par les médias occidentaux.
Mais il y a eu aussi, comme vous le savez, beaucoup de personnes ici, en France et ailleurs, mais surtout en France, parce que je rappelle, alors on rappelle toujours cela, mais c'est quand même intéressant, je le rappelle pour les auditeurs de Sud Radio, ça date de 1250, hein, 13e siècle, le roi Saint-Louis s'adresse au patriarche maronite en ces termes, « Pour nous et nos successeurs sur le trône de France, nous promettons de vous donner à vous et à tout votre peuple » notre protection spéciale comme nous la donnons aux Français eux-mêmes. Intéressant quand même de rappeler ça quelques siècles plus tard. Et simplement, il faut le dire aussi, Youmna Gemayel, ces liens quand même se sont distendus, la réelle politique a repris ses droits.
Bien sûr, à l'époque, donc, mais les chrétiens du Liban, et même les Libanais d'ailleurs, on parle tous français, on est un pays francophone, enfin de moins en moins aujourd'hui, parce que l'anglais a repris le dessus, parce que c'est business as usual, donc il faut s'adapter aussi à notre époque. Mais c'est vrai qu'on a toujours considéré que la France était notre grande sœur. Et d'ailleurs, ça s'est d'ailleurs vu le 4 août, quand il y a eu cette grande explosion, cette malheureuse explosion. La première personne, le port de Beyrouth, on a quand même eu 230 morts, on a eu 6500 blessés, on a eu des gens qui ont... Enfin, tout Beyrouth a explosé, on a été nous-mêmes blessés, nos maisons, tout détruit. Moi, j'ai eu plus de 60 amis qui sont morts, entre amis, parents d'amis, amis d'amis. Et la première personne qui est venue, c'était le président Macron. Donc, c'est vrai que ça nous a fait quand même un baume au cœur de recevoir le président, parce que l'État était absent. Donc, on a vu en lui aussi la figure paternelle. Donc, c'est vrai que la France et le Liban sont toujours en lien. Je considère...
C'est vrai, c'est vrai. Après, effectivement, est-ce que les actes ont suivi ? C'est encore une autre histoire que nous parlerons, nous ne nous étendrons pas là-dessus. Mais je voudrais vous revenir. Comment, à quoi vous attribuez ? Il faut le dire quand même, cette espèce de extraordinaire, il faut le dire, résilience du Liban. On l'a beau dire, et le nombre de fois on l'a dit, le Liban c'est fini, c'est mort, mais depuis, hein, depuis des années, oui, ça va faire partie de la République arabe unie, rappelez-vous, c'était l'Égypte, la Syrie, etc., etc., etc. Et à chaque fois, et évidemment on espère que ça va continuer, le Liban renaît de ses cendres. Et vous savez, je me rappelle d'un... Là, c'était... Vous n'étiez pas encore né. Je me rappelle d'une commission économique, Lebré, dans les années 60, je crois, était venu au Liban pour faire un audit économique du Liban. Ils sont restés 6 mois. Ils ont tout vu, etc. Ils ont dit, vous savez, selon toutes les règles d'économie, vous êtes en faillite totale. Mais comme ça marche, continuez comme ça. Après, évidemment, il y a eu d'autres choses. Mais comment aujourd'hui, franchement... Gemayel, comment aujourd'hui, pour vous, quelles seraient les volontés, qu'est-ce qu'il faut faire, je ne dis pas les mesures, l'inventaire des mesures, pour que le Liban sorte de cette crise assez terrible qu'il traverse ?
Je vais vous répondre, c'est très facile pour sortir de cette crise, il y a des réformes structurelles à faire, on sait c'est quoi, on les connaît, il faut juste les faire, ça c'est une volonté politique.
Il faut avoir
politique.
Le courage et la volonté.
Il faut avoir c'est le ça. Courage et la volonté, comme Bachir, de le faire. Mais par contre, je voudrais revenir sur le fait que, de cette résistance. Ouais. Souvent on dit que le Libanais est résilient, mais en fait le Libanais n'est pas résilient, le Libanais est résistant de par ses gènes. Et ça, c'est depuis tout le temps, depuis le maronitisme, depuis Saint-Maron, depuis les premiers patriarches qu'il y a eu au Liban, qui se sont enfuis dans la vallée sainte et qui se cachaient dans les grottes, dans la vallée sainte de Kadisha. Et donc, cet esprit de résistance a commencé depuis les années 1200, Tout ce que le Liban a vécu par les envahisseurs, les chrétiens sont restés là. Et je pense que cette foi chrétienne aussi a donné cet esprit aux Libanais. Donc je pense que le Liban, c'est un esprit. C'est l'esprit libanais. C'est pas
c'est
la coexistence.
Ouais.
C'est un esprit. C'est plus qu'un état d'esprit. Je pense que c'est vraiment l'esprit libanais. Il faut commencer
à en
parler.
Est-ce qu'il est partagé par toute la population ? C'est ça le problème. Il faut le dire quand même. Est-ce qu'il est partagé par toute la population libanaise ?
Écoutez, aujourd'hui, cet esprit est partagé par toute la communauté libanaise. Et on l'a vu dernièrement, après le 4 août. Le 5 août, les gens sont descendus dans la rue avec cet esprit de résistance. De toutes les religions confondues, des chrétiens, des musulmans, des partisans, des non-partisans, des jeunes, des moins jeunes.
Oui, tous femmes, les gens, hommes, tout, le
tout, 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 tout le monde. Ils sont descendus, ils ont pris leur balai de leur maison. Ils ont balayé, ils ont reconstruit. Le 5 août au soir, donc moins de 24 heures, on entendait les marteaux dans les rues, les gens qui reconstruisaient leur maison. Il y a cet esprit national, il faut juste créer cette cause. Et c'est ça aujourd'hui, ou 40 ans après Bachir, il faut recréer la cause libanaise. Elle existe, il faut juste la déboussiérer un peu, l'adapter à, en 2022. Et je pense que la cause libanaise existe vraiment.
Alors on va tout de suite en parler avec vous, Youmna Gemayel, après cette toute petite pause. À tout de suite.
Et n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 pour en parler avec André Berkoff et avec Youmna Gemayel.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
Eh bien, nous sommes toujours, Joseph,
on est toujours ensemble sur
toujours
Sud Radio.
Ensemble et avec surtout avec les auditeurs de Sud Radio.
Exactement.
Qui peuvent poser des questions. D'ailleurs, aussi bien sur l'intervention d'Alexandra Henrion-Code qu'avec Youmna Gemayel, hein, bien sûr.
Oui, alors on y sera tout à l'heure, dans un quart d'heure, avec les auditeurs. Il y a Nicolas de Provence qui nous a appelés, et effectivement, qui est touché par votre témoignage et qui sera très, très heureux de discuter
alors,
avec vous. Et n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300.
Et là, on va continuer, alors, avec Youmna, de parler, effectivement, de projet. On a commencé à parler de cela. C'est-à-dire, vous dites, effectivement, bon, il y a résilience, il y a résistance, enfin, disons résistance. Et au fond, mais quel serait aujourd'hui, vous dites, attendez, c'est bien, mais je vous trouve très optimiste, là, vous dites, IA, c'est facile, il faut dépoussiérer. Est-ce qu'il faut que dépoussiérer? Est-ce qu'il n'y a pas des choses structurelles à faire et c'est pas facile?
Bien sûr, non. Il y a des réformes structurelles à faire. Aujourd'hui, le régime libanais est un régime de consensus politique, de consensus communautaire. Et c'est ce que le pacte national de 1943, d'ailleurs, a voulu.
Faux ou vrai consensus ?
Non, vrai consensus. Vrai consensus, parce qu'aujourd'hui, s'il y a une communauté qui ne veut pas participer au gouvernement, le gouvernement ne peut pas être fait. Si une communauté ne veut pas de ce président de la République en particulier, ce président ne peut pas être élu. Donc non, vrai consensus. Maintenant, est-ce que ces gens-là représentent vraiment leur communauté? Ça, c'est une autre question. Mais le consensus, il est là. Donc le consensus politique existe vraiment. Et les réformes structurelles doivent exister pour évoluer, pour vraiment aller dans un pays, donc, comme Bachir l'a rêvé, un pays avec des normes occidentales.
Alors, moi, je vais vous poser la question qui fâche, pas qui vous fâche à vous, sûrement pas. On l'a quand même beaucoup dit, d'ailleurs, quand Macron est allé là-bas, il a dit, écoutez, c'est pas possible qu'il y ait une classe politique qui spolie, qui vole, qui... Enfin, pas... Il faut jamais généraliser, mais quand même qu'il y a eu, d'ailleurs, comme il y a dans tous les pays, hein, c'est pas du tout une spécificité de qui que ce soit, mais il y a eu quand même, peut-être, ça a joué, ce sentiment, toute tendance confondue, qu'une certaine classe de dirigeants a... Elle n'a pas ce qui est totalement le contraire aux antipodes de votre père, qui lui était totalement lié à son pays, à penser plus à son portefeuille qu'à son pays.
Bien sûr, les intérêts... Bon, le fait qu'on en soit arrivé là, c'est quand même que la classe dirigeante pensait à ses intérêts personnels et aux intérêts de sa petite équipe, de sa petite tribu, sur les intérêts nationaux. Aujourd'hui, quand on pense que la guerre, c'est... Enfin, la guerre civile, disons, s'est arrêtée en 1990, on est en 2022, on n'a toujours pas d'électricité, je pense qu'il y a un problème. Aujourd'hui, dans les pays du tiers-monde, l'électricité n'est pas un souci, et je pense que ça ne devrait pas l'être. Donc le fait qu'on n'ait pas encore d'électricité, ça veut dire qu'il y a un vrai problème structurel. Pourquoi ? Parce que il y a une mafia donc des moteurs. Donc les moteurs, c'est les générateurs d'électricité. Donc ces générateurs appartiennent à des gens qui appartiennent à X ou Y ou telle partie. Et donc ça fait des moyens de
financement. Ils spéculent là-dessus et voilà. Mais...
voilà. Et donc voilà, il y a plein de réformes à faire. Il y a les fonctionnaires qu'on fait rentrer dans l'État. Donc des fonctionnaires, ça fait partie du clientélisme qui existe. Donc voilà. Je te fais rentrer dans l'État et toi, en contrepartie, tu votes pour moi à telle ou telle échéance.
On achète ses électeurs, etc. Ouais, ouais.
Et donc, c'est ce genre de structure, de réforme qu'il faut faire. En tout cas, le FMI, avec qui on est en négociation aujourd'hui, il a dit que la réforme des fonctionnaires de l'État doit être faite, la réforme de l'électricité doit être faite, la réforme du secteur bancaire, parce que maintenant aussi, il y a des connivence entre le secteur bancaire et les hommes politiques. La moitié des hommes politiques font partie des conseils d'administration des secteurs bancaires. Ils ont profité de tout le modèle de l'endettement de l'État qui est passé à travers les banques. Donc la réforme existe et on sait ce qu'il faut faire. Je veux dire, vraiment, on sait ce qu'il faut faire.
Ouais.
Mais c'est une volonté politique de vouloir le faire.
Et les hommes
et
les femmes pour le faire.
Oui, et les femmes pour le faire.
Et les hommes aussi, un peu.
Et les hommes aussi.
Ça y est, elle est féministe en plus, Yumna Jamayel, d'accord. Alors, le projet, justement, parlons-en un tout petit peu, le projet que vous et d'autres voulez mettre un peu en... C'est la continuation un peu de ce que voulait votre père ?
Bachir, quand il est mort, il a réussi à envahir la conscience collective du peuple libanais. En intégrant un modèle, donc ce modèle de 21 jours. Je vais juste vous donner des exemples. Que signifie ce 21 jours dont on parle, les 21 jours de Bachir ? C'est le fonctionnaire qui est arrivé à l'heure. Je sais que ça peut vous sembler peut-être bizarre pour, pour des Français. C'est le citoyen libanais qui respectait la personne qui portait un uniforme, qui s'arrêtait à un feu rouge.
Bah, il y a eu vraiment une discipline, enfin un civisme qui s'est
tout de suite... Un civisme et un sentiment de citoyen, un sentiment de dignité du citoyen. Et qui s'est fait automatiquement, ça s'est pas fait par la force, par la peur, par les armes, ça s'est fait vraiment par le respect qu'il y avait une personne, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui était là, qui avait la stature d'un homme d'État, qui voulait créer un État, tous ensemble, avec ses partisans et ses opposants, donc il y aurait eu une majorité et une opposition, comme dans tous les pays démocratiques. Et donc tout le citoyen s'est senti concerné par ce qui se passe. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est vraiment s'adresser aux citoyens libanais, lui dire que tu as ta liberté au Liban, tu as ta citoyenneté, tu as ta dignité. Il faut reconstruire cet État ensemble.
Mais il faut observer les règles du jeu. C'est ça le problème. Quand je dis les règles du jeu, de ne pas se dire que la seule manière... Et quand je dis ça, c'est vrai pour la France, c'est vrai pour le Liban, c'est vrai pour tout. Hein. C'est, vous savez, beaucoup de gens pensent que bon... J'y arriverai pas, il faut que je magouille. Si je ne peux pas magouiller, eh ben, j'y arriverai jamais. C'est tout le problème du civisme, ça.
C'est une question d'éducation, je pense. D'éducation, pas d'éducation à la maison. C'est une question de... C'est le système, c'est un système de pensée. Je pense que le système de pensée peut être changé du jour au lendemain. Et d'ailleurs, on en a eu la preuve avec Bachir. Donc la preuve existe. On a déjà un exemple. Donc si ça s'est fait à l'époque, je pense que ça peut se faire aujourd'hui aussi. Et oui, ça va se faire.
Oui, mais alors est-ce qu'il faudrait pas un nouveau Bachir ?
Si, qu'il existe ? Bien sûr. Il existe. Moi, vous savez, Bachir, avant de mourir, il a dit si je meurs et il n'y a pas 6000 Bachir après moi, que le Liban aille au diable. Donc je pense qu'il n'y a pas un Bachir, il y a des Bachir, et il y a le projet Bachir. Et voilà, je pense que c'est le projet Bachir qu'il faut mettre en avant. Il ne faut plus aller dans le côté des personnes. Vous savez, au Liban, on a le culte de la personne. Je pense qu'il ne faut pas aller vers le culte de la personne, mais plutôt vers le culte du projet. Et ce n'est que ça qui va réussir à nous faire sortir du gouffre dans lequel on est.
Bah écoutez, ainsi soit-il. En
Amen.
Tout cas, on va absolument, a woman comme disent les Américains, on va prendre des auditeurs donc tout de suite après ceci.
Et oui, juste après une courte page de pub, l'antenne vous sera ouverte sur Sud Radio pour discuter avec Yumna Gemayel, co-auteur de Béchir Gemayel avec Emmanuel Pesé et Yann Bali aux éditions Pardès. N'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300. Oui. A tout de suite sur Sud Radio.
Ici Sud Radio. Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau.
Sud Radio Berkov dans tous ses états.
On est ensemble jusqu'à 14h avec Yumna Gemayel. On parle du Liban. 0826 300 300 pour en discuter avec André Berkov. Et c'est Nicole du Tarn qui vient de nous appeler. Bonjour Nicole.
Bonjour Nicole. On vous
écoute. Bonjour. Bonjour. Eh bien, j'écoute avec beaucoup d'intérêt l'émission de Monsieur Berkov, et d'autant plus aujourd'hui que je suis très touchée parce que c'est Madame Gemayel qui parle. Alors pourquoi ? Parce que j'avais un oncle, le frère de papa,
oui,
qui était consul de France à Beyrouth et qui a épousé une mademoiselle Joséphine Saouda.
D'accord.
Et ils ont eu un enfant, ouais, et un enfant, un garçon, dont Pierre Gemayel était le parrain du baptême.
D'accord.
Voilà, donc.
Ah, donc vous êtes proche, oui.
Voilà, tout à fait aujourd'hui, comme par hasard, j'écoute très souvent Monsieur Berkov, et comme tous les jours, et là, je suis touchée aujourd'hui parce que, effectivement, voilà, il y a un petit peu cette relation.
Vous ne connaissez pas vous-même le Liban, madame Nicole.
Je ne connais pas le Liban, je ne connais pas le Liban, je le regrette d'ailleurs. Ma tante, maintenant, a vécu longtemps à Paris, puisque son mari, mon oncle, donc, avait été consul à Beyrouth, consul de France à Beyrouth, puis d'accord, ensuite, ils ont quitté pour Londres, et enfin, mon oncle n'y est plus. Et Joséphine Saouda, ma tante, que nous aimions beaucoup, n'est plus là non plus.
D'accord.
Et c'est avec beaucoup, beaucoup d'affection que j'écoutais la parole.
Vous êtes Yumna Gemayel. Merci de votre ressenti.
Auguste. Voilà. Je tenais vraiment Joseph à le dire, ça, c'est une coïncidence.
Ben, vous avez bien fait, vous avez bien fait de le dire, absolument.
Voilà. Merci beaucoup, Nicole. Et on a quelques questions sur le Facebook Live, André, notamment, oui, c'est un autre moyen d'interagir avec nous, André Berkov, dans tous ses états. Il y a une question notamment de Nathalie qui pose la question: qu'est-ce que la diaspora libanaise peut faire? Il y a quelques critiques qui sont émises, oui, mais elle pose la question: qu'est-ce que la diaspora libanaise peut faire aujourd'hui pour le Liban?
Parce qu'il y a une énorme diaspora libanaise dans le monde.
Bien sûr, il y a beaucoup plus de Libanais en dehors du Liban que des Libanais au Liban. Écoutez, le rôle de la diaspora est essentiel. Le rôle de la diaspora est essentiel à tous les niveaux. À un niveau diplomatique, donc c'est des relations avec les pays. À un niveau de lobby, donc il peut faire du lobby pour le Liban. Aujourd'hui, le lobby, c'est vraiment pour désarmer le Hezbollah, pour vraiment avoir une armée libanaise avec des armes.
Le parti chiite
qui a des armes. Donc la diaspora, c'est vraiment c'est notre bouffée d'oxygène. C'est eux qui envoient de l'argent à leur famille. C'est eux qui permettent à leur famille de rester enracinées au Liban grâce à la petite somme d'argent qu'ils envoient à la fin du mois. Ça leur permet de résister, de rester enracinées. Donc la diaspora a un très grand rôle. Ils doivent aider leur famille. Ils doivent vraiment faire du lobbying pour le Liban.
Est-ce qu'ils le font ?
Ah oui, oui, oui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Liban survit, bien sûr. On survit grâce à la diaspora. Et je voudrais les remercier pour tout ce qu'ils font pour le Liban, vraiment. C'est quelque chose d'essentiel, la diaspora. Et à un moment, le Liban n'a pas su vraiment traiter avec eux ou créer un lien avec eux. Mais là, c'est la deuxième fois que la diaspora a le droit de voter pour les élections législatives. Donc on commence à recréer un lien entre ces gens qui habitent dehors et ces gens qui habitent au Liban. Oui. Et je les remercie.
On a aussi, nous avons les Français de l'étranger qui votent, qui élisent leurs députés. Et ben, il est bon que la diaspora libanaise le fasse. Yumna Gemayel, je voudrais vous faire écouter quelque chose. Hier, Éric Zemmour, candidat malheureux aux législatives et à la présidentielle, mais il a quand même réuni pas mal de gens et pas mal de voix et pas mal de partisans, en quelques mois, était au micro de Christine Kelly, et à un moment donné, il a dit cela, écoutez.
Si dans 15 ans, comme je le crains, si nous continuons sur cette pente-là, nous sommes le Liban, si vous voulez, avec des communautés qui s'affrontent et avec un pays qui est à moitié islamisé, si dans 30 ans, il est complètement une république islamique, nos discussions seront dérisoires. C'est tout ce que je dis.
Voilà. Alors, ce que dit Éric Zemmour, hein, il parlait de la France, il dit, vous voyez, dans 15 ans, si on continue comme ça, on est le Liban, on est islamisé, on est République islamique, et nos discussions sont dérisoires. Ça vous fait réagir comment ?
Ça me fait... Ça, déjà, le Liban n'est pas un pays islamique. Je suis désolée.
Il ne dit pas ça, il a
bon,
pas dit ça.
On n'est pas devenu 30 ans après un pays islamiste.
Ouais.
D'abord, donc, j'ai écouté M. Zemmour durant sa campagne électorale, parce que le Liban suit la campagne électorale française, donc M. Zemmour comme tous les autres candidats à l'élection présidentielle. C'est vrai que quand M. Zemmour parle de libanisation... je peux comprendre, en fait, parce que c'est l'affrontement entre deux communautés, en fait, et donc la fragmentation de l'État. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le Liban, c'est pas deux communautés qui se sont entretuées. C'est un corps étranger qui est venu au Liban. Et ce corps étranger, c'était les Palestiniens, et puis après, c'était les Syriens, et puis aujourd'hui, c'est les Iraniens, et puis demain, bon, j'espère que ça sera plus personne. Donc, la libanisation et le conflit est un conflit d'un corps étranger qui est venu au Liban, et ce n'est pas quelque chose qui vient de l'intérieur, comme je peux écouter de ce qui se passe aujourd'hui en France.
Ouais.
Donc,
en fait, Zemmour, pas s'attarder dessus, considère que l'immigration massive est un corps étranger. C'est ça, sa doctrine. Mais enfin, ça,
écoutez,
c'est
ce qui est
chose.
Très important, je pense que c'est que le communautarisme ne doit pas prévaloir sur le contrat républicain. Aujourd'hui, la France est un pays laïque, républicain. La construction identitaire du Liban est différente de la construction française. Par contre, moi, ce que je voudrais dire, c'est si M. Zemmour, donc justement, parle des 30 prochaines années en France, ce que je voudrais lui dire, c'est que nous, au Liban, justement, on a réussi à créer une libanisation positive. Cet esprit libanais, cette coexistence, c'est de transformer ce modèle en vraiment un modèle de coexistence avec un esprit libaniste, avec un esprit nationaliste. Et donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, la libanisation, ça doit être quelque chose de positif, où toutes les communautés vivent ensemble. Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, le schisme politique, enfin, les deux parties qui se déchirent politiquement, c'est pas chrétien-musulman, c'est chrétien-musulman contre chrétien-musulman. Donc,
ouais,
c'est vraiment une façon de voir les choses. Donc, ça devient vraiment beaucoup plus démocratique. C'est une façon de vivre, que ça soit chrétien ou musulman.
C'est pas en fonction de la frontière communautaire, quoi. C'est
en fonction de, bon, après, des convictions politiques de chacun, de la façon dont eux se considèrent vouloir vivre. Donc, si la libanisation, aujourd'hui, doit être vue d'un certain point de vue, je parle 30 ans après la guerre, c'est vraiment, au contraire, de quelque chose de positif, de coexistence, d'un nouvel esprit libanais qui est beaucoup plus démocratique que communautaire.
Bah, écoutez, c'est bien de mettre, en tout cas, ces choses au point. Selon vous, Youmna Gemayel, Joseph, on a des auditeurs.
Oui, on a énormément de commentaires, notamment sur le Facebook Live. Et on a Pascal qui vient de nous appeler au 0826-300-300 et qui veut notamment, André Berkoff, vous interpeller à propos de l'entretien de tout à l'heure avec Alexandra Henrion-Code. Bonjour.
D'accord.
Pascal.
Bonjour Pascal.
Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour.
Bonjour.
Alors, je voulais rebondir sur l'intervention d'Alexandra, que je trouve, Madame Henrion-Code, que je trouve extrêmement courageuse depuis le début, qui a alerté donc sur les dangers de cette vaccination hautement expérimentale, puis rappelle effectivement toutes les études publiées au niveau national et international et qui tombent les unes après les autres et qui concluent toutes que malheureusement on a un nombre d'effets secondaires inouïs et inédits par rapport à n'importe quel produit pharmaceutique mis sur le marché depuis 1900.
Et même par rapport à n'importe quel vaccin qu'on avait avant aussi, il faut le rappeler
tout à
aussi.
Fait. Oui. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment, il faut le répéter inlassablement, parce que là, il y a la vaccination des enfants qui arrive et c'est quand même très, très, comment dire, inquiétant. Donc moi, je voulais donc la remercier une fois de plus et aussi faire part de mon approche juridique, parce que dans cette histoire de vaccination, il y a deux grands principes qui ont été bafoués. C'est le principe de précaution qu'on met en place en droit médical. C'est un grand, grand principe. Donc on ne met pas sur le marché des produits qui ne sont pas sûrs. D'ailleurs, dans les contrats de la Commission européenne, on voit bien que les fabricants ne garantissent même pas la stabilité des produits. Hein, c'est marqué noir sur blanc.
Ah, mais non seulement ça, mais les fabricants ne prennent même pas la responsabilité. Vous savez que c'était écrit. Hein, d'accord.
Tout à fait, c'est écrit. Hein, donc on a les preuves matérielles de ça.
Absolument.
Voilà, et on a aussi un autre grand principe qui a été bafoué. Et ça, tous les juristes le savent, ils ne peuvent pas l'ignorer, ceux en tout cas qui font du droit médical, c'est ce fameux consentement libre et éclairé. Libre, ça veut dire qu'il ne faut subir aucune pression, or avec des passes vaccinaux, des passes sanitaires, ça s'appelle une pression, ce n'est pas autre chose. Et éclairé, c'est donner aux patients qui vont se faire vacciner, par rapport à leur état de santé, tout l'inventaire des bénéfices et des risques, et des risques en les inventoriant toutes, c'est-à-dire les drafts de la NSM, de l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Or, ça n'a jamais été fait en France. Ça n'a jamais été fait. Donc, on a un véritable problème juridique qui engage la responsabilité de ceux qui ont implémenté cette vaccination à cette échelle-là, clairement.
On est bien d'accord. En tout cas, c'est clair que le problème est posé et nous verrons comment il sera résolu
Comment il sera résolu, parce que d'autres pays, évidemment, sont concernés. Il n'y a pas que nous. Et aux États-Unis, les choses avancent encore plus vite que chez nous à ce niveau-là.
Tout à fait.
Alors sinon, vite, j'interviens aussi sur le deuxième point.
Oui.
Par rapport à votre intervention au tout début d'émission, M. Berkoff, que j'ai trouvé particulièrement... opportune et claire. Et moi, je voulais rajouter une chose, c'est toujours l'œil de la jury,
oui.
Par rapport à l'œil des législatives, oui. Et le discours de M. Macron.
Oui.
Il y a une chose que les Français ignorent, ou en tout cas ceux qui sont trop jeunes, ceux qui sont vieux s'en rappellent peut-être. Il y a eu un événement en France en 1946 qui permet d'éclairer crûment ce qui s'est passé au niveau institutionnel depuis 2020 et ce qui s'est passé là lors des législatives,
oui.
Et ce qui se passe aussi, qui passe en filigrane dans le discours de M. Macron.
Alors c'est quoi ce qui s'est passé, oui, en 1946?
Alors qu'est-ce qui s'est passé en 1946? C'est le discours de De Gaulle de Bayeux. Le discours de Bayeux.
Oui.
Donc De Gaulle, qui a été au gouvernement juste une année,
tout à fait,
est éjecté du gouvernement et donc réfléchit à la façon dont les institutions sont organisées. Alors, lors de ce grand discours qui préfigure l'avènement de la Constitution de 1958, il dit quoi? Il dit ceci. Il ne faut pas que la solidité des institutions entraîne une dictature synonyme d'un régime où le pouvoir est concentré entre les mains d'un individu. Qu'est-ce qu'on a vécu depuis 2020, sur le fond d'état d'urgence sanitaire, etc. Ou d'une assemblée. Bon, ça n'a pas été le cas, l'assemblée. Si, c'était le cas parce qu'il y avait des députés Godillon et LREM. D'un parti, LREM, ou d'une classe. Et je dirais les technocrates qui nous gouvernent. Voilà. Dans cette configuration, De Gaulle poursuit en disant les détenteurs auraient un pouvoir absolu. Et De Gaulle met en garde.
Oui, enfin, mais juste un mot, parce qu'on va, malheureusement, on a peu de temps. Vous savez, mais il a appliqué tout cela en 58 avec la Constitution et surtout en 62. Et en fait.
Alors, je vois tout de suite, c'est la juriste qui intervient tout de suite.
Oui.
Il y a la loi d'état d'urgence, il l'a fait pendant la guerre d'Algérie, mais il l'a fait pendant 2 mois. Il ne l'a pas fait pendant 2 ans.
Non, mais on ne parle pas de la loi d'état d'urgence. On parle du manque total de contre-pouvoir. Et ça, c'est encore pire que, je dirais, que l'état d'urgence. Une démocratie, vous le savez très bien, c'est l'argiste qui parle, c'est les contre-pouvoirs. Ça s'appelle Montesquieu, ça s'appelle les trois pouvoirs. Vous les voyez, les trois pouvoirs, aujourd'hui?
Ah ben non, c'est l'instant de mon intervention, il n'y a pas d'équilibre. Et justement, les Français ont dit qu'ils votent avec leurs pieds, mais là, moi, je pense qu'ils ont voté avec leur intuition, et c'est parfait.
Ça prouve que le peuple français n'est pas lobotomisé, comme certains le souhaitaient.
Et ça prouve que le mépris de classe qui dit qu'il faudrait interdire, moi j'ai entendu ça dans la bouche de certaines personnes au placé, il faudrait interdire aux Français de voter, c'est quand même hallucinant d'entendre ces propos-là aussi.
Ah, mais bien sûr, il faut dissoudre le peuple, comme disait Bertolt Brecht. Le peuple, c'est emmerdant. Il serait tellement bien le pouvoir s'il n'y avait pas le peuple, franchement.
Oui, on pourrait l'éliminer complètement, d'ailleurs.
Ah,
aussi,
vous savez, c'est le camp du bien, on sait mieux que vous ce qui est bon pour vous, c'est clair. Merci en tout cas, merci à la juriste.
Merci beaucoup Pascal qui nous appelait d'Anthony. Restez avec nous sur Sud Radio 0826 300 300 pour réagir via le Facebook Live aussi. Vous pouvez nous poser directement vos questions en commentaire. On est avec Youmna Gemayel, on parle du Liban et tout de suite, juste après la pub, on continue à parler avec vous et avec André Berkoff.
Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites.
Sud Radio Berkoff dans tous ses états.
On est ensemble jusqu'à 14h avec Youmna Gemayel, on parle du Liban. Et si vous souhaitez poser des questions à Youmna Gemayel, vous n'hésitez pas à nous appeler au 0826 300 300 ou à passer directement par le Facebook Live comme vient de le faire François et qui pose la question, qui se rend compte que l'image du Liban a été un peu impactée par l'explosion du port de Beyrouth il y a un an désormais, il y a un peu plus, et qui se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui vous conseilleriez aux touristes de se rendre au Liban? Est-ce que c'est aujourd'hui le Liban est sûr?
Cet été 2022, on attend plus d'1 million de touristes Libanais et de la région. Le Liban est un pays sûr, oui. Au niveau sécuritaire, pour le moment, il n'y a pas, y a rien qui dit qu'il va y avoir quelque chose, mais bon, maintenant, on ne sait jamais ce qui peut arriver. Écoutez, le Liban est un pays touristique. Je conseille à tout le monde de venir visiter. On a de super plages, on a une super nourriture, on a un super accueil. On n'a pas beaucoup d'électricité, mais ça viendra.
Donc on pense, on a le dîner aux chandelles, c'est très bien.
Voilà, c'est très romantique. Mais vraiment, l'accueil que les Libanais vont réserver cette année spécifiquement aux touristes va être un super accueil parce qu'on a vraiment besoin d'eux. Ça va être notre bouffée d'oxygène. Donc non, au niveau sécuritaire, pour le moment, il y a rien du tout.
Alors, oui.
Allez-y, André.
Alors, Joseph, non, je voulais vous demander par rapport à ça, qu'est-ce qui fait au fond, alors c'est intéressant, évidemment, vous parlez de votre père, et vous avez la distance nécessaire, et en même temps, moi, c'est toujours fascinant, les personnages, qu'est-ce qui fait que Bachir Jemayel devienne Bachir Jemayel. Je veux dire, par là, qu'est-ce qui fait qu'un, sans faire des comparaisons, que ce soit un De Gaulle, etc., moi, ça m'a toujours fasciné. Comment quelqu'un apparaît à un moment donné et sur une longue ou courte période marque son temps de façon indélébile. Et dans le cas de votre père, vous diriez c'était quoi ses qualités ou ses caractéristiques qui faisaient qu'il a marqué son temps. Et pas seulement en 3 semaines, et 10 ans avant, et voilà.
Bachir, en fait, je vais vous dire ce qui a fait en fait qu'il est arrivé là où il est. Bachir est le seul, je pense, Libanais contemporain qui a réussi un double pari, qui a réussi le pari militaire. Donc son pari militaire, il l'a réussi. Il l'a réussi en faisant sortir le Syrien de la région de Achrafieh, donc ce qu'on appelle la guerre des 100 jours. C'était les forces libanaises qui étaient contre l'armée syrienne.
Qui était très importante, rappelons-le.
Qui était une armée syrienne, alors que eux, c'était 120, 130 personnes qui combattaient contre l'armée syrienne, donc à Achrafieh. On a appelé ça la guerre de 100 jours parce qu'ils ont tenu 100 jours avant que l'armée syrienne ne parte. Donc ça, c'était la première consécration militaire positive de Bachir. Donc il a été consacré chef militaire chrétien. Ensuite, la deuxième bataille, c'était la bataille de Zahle, aussi contre l'armée syrienne. Et donc aussi, il y avait 100, 120 personnes qui ont combattu l'armée syrienne.
Pas plus. Ils étaient 120.
Pas plus. Bon, à l'époque, il ne fallait pas le dire, mais maintenant, on en est fiers. Donc, ils ont réussi. Et la bataille de Zahle a consacré Bachir sur le plan national, en tant que vrai leader sur le plan national. Et c'est à ce moment-là que les États-Unis, la France, etc., a commencé à parler avec lui en tant que chef national et non pas en tant que chef de milice. Donc, Bachir a gagné son pari militaire. Et il a gagné son pari politique en accédant à la première magistrature de l'État, donc en accédant à la présidence de la République. Et c'est le seul personnage, je pense, du Liban contemporain qui a réussi ce pari. Et c'est pour ça qu'on a toujours, on en parle, parce qu'il a fait un triomphe, il a triomphé. Vous savez, chacun a un passé qui est bien, pas bien, durant la guerre, bon. Mais le fait de gagner et de triompher, on oublie le passé pour pouvoir construire l'avenir. Et ce qui reste de Bachir, l'image qui reste de Bachir, est bien sûr le chef de guerre, le chef de milice qui a gagné, mais c'est aussi le président de la République, d'Union nationale, qui en 21 jours a réussi à mettre autour de lui les musulmans, à travers Sa'ib Slim, les druzes, les chrétiens, et les chiites qui étaient en fait déjà avec lui. Les chiites de l'époque ne ressemblaient pas au Hezbollah d'aujourd'hui. Oui. Les chiites, la majorité des chiites, l'unanimité des chiites a voté pour Bachir Jemayel pour devenir président de la République.
Donc, oui,
à l'époque. Et on peut dire aussi que les chiites étaient les premiers à jeter du riz sur l'armée israélienne quand ils sont rentrés au Liban Sud. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est bien aujourd'hui d'extrapoler tout ça, mais à l'époque, quand les Israéliens sont rentrés, les chiites du Sud étaient les premiers à les recevoir avec du riz. Et il y a des photos, on a entendu,
oui,
c'est des photos, on les a vues. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, les Palestiniens étaient là, en train de violer les femmes chiites, de prendre leur travail et tout. Donc on était tous très contents, les gens qui habitaient au sud, de voir l'armée israélienne rentrer et les débarrasser de ces fédaïnes palestiniens de l'époque.
Alors donc on va continuer d'en parler, mais juste je crois qu'on a un auditeur, Joseph.
Oui, on a Philippe de Narbonne qui souhaiterait, André, vous interpeller à propos de l'intervention tout à l'heure d'Alexandra Henri-Lancôte. Oui, Philippe, bonjour Philippe.
Oui, bonjour Philippe.
Bonjour. Vous allez bien?
Ça va bien et vous?
Ça ça va, voilà, bon. Je voulais, comment dire, apporter mon soutien à Orion Claude, de vraiment de continuer, de pas perdre courage, et comment dire, de se rendre compte que, comment dire, beaucoup de gens sont victimes de scotomisation, en fait. Mmh. En psychiatrie, c'est bien décrit, c'est le refus de voir la réalité, de
le,
voir
le déni du réel, vous dites, c'est ça.
Le déni du réel, voilà. Mmh. Comment dire, effectivement, Madame Orion Claude se base toujours, comment dire, sur à mon sens, sur ce qui peut nous apporter un élément de vérité, c'est-à-dire la science et les chiffres. Qu'elle ne perde pas courage, et en petit clin d'œil, je lui dirais de tenir bon, courage, et que Dieu exauce toujours nos prières.
Merci, on lui transmettra en tout cas. Écoutez, nous, vous savez, à Sud Radio, ici, nous tenons compte de toutes les opinions et nous faisons parler des gens extrêmement divers, des personnes, hommes ou femmes extrêmement divers. Mais l'important, c'est la liberté d'expression. C'est fondamental. Et d'avoir question à tout, c'est tout aussi fondamental. Joseph ?
Oui, et on a encore quelqu'un qui souhaiterait réagir à Alexandra Orion-Claude, une dernière. C'est Jean-Bernard de Châteaubriant, c'est ça, et après, qui nous a appelé.
Oui,
bonjour,
j'ai
Jean-Bernard.
J'ai une question ensuite avec Yom
Najemayel.
Oui, bonjour.
Monsieur Berkoff.
Bonjour.
Oui, moi, je voulais réagir un petit peu par rapport à ce qu'a dit Alexandra Orion-Claude, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps à une conférence.
Oui.
C'est très bien tout le travail qui est fait. Moi, je voulais simplement apporter mon témoignage. J'ai essayé d'être rapide. Je suis ambulancier privé. Et donc, dès mars de 2020, j'ai vu la mascarade qui tourne autour du coronavirus.
Ah, vous dites carrément mascarade, vous ?
Ah oui, carrément mascarade. Je pèse mes mots et je pourrais vous en parler pendant des heures. Je vais essayer de faire rapide.
Oui, s'il vous plaît.
Voilà, ouais. Donc, moi, dès le premier confinement qui a eu lieu en mars 2020, donc les ambulanciers privés sont appelés par le SAMU pour faire des missions en urgence.
Bien sûr.
Et on arrive, voilà, au domicile des personnes. Donc tous nos départs, quasiment tous nos départs, je veux dire 95% de nos départs, c'était notifié suspicion Covid.
D'accord.
Donc quand on arrivait sur l'intervention, on voyait bien, il n'y avait pas Covid, c'était soit un AVC, soit une grippe, soit une gastro, etc.
Vous voulez dire, votre ordre de marche, c'était écrit suspicion Covid ?
Je confirme, d'accord. Suspicion d'accord. Covid. D'accord. Donc ensuite on rappelait le SAMU, donc on avait l'accord pour transporter, et on arrivait aux urgences. Alors, je vous le donne en mille, on était déclenché Covid, on faisait le transport Covid, et l'enregistrement aux urgences se faisait Covid, malgré qu'on levait, nous, on demandait de la levée du protocole, mais malheureusement, il n'y a qu'un médecin qui peut lever le protocole. Et nous, ce qu'on a eu comme retombée, et ça, c'est pour ça que ça m'a mis en colère, c'est qu'au bout de, on va dire 2 heures, 3 heures, que le patient avait été vu par un médecin, il sortait des urgences, à aucun moment il était sorti du protocole Covid.
Ah d'accord, oui. On le considérait protocole Covid, quel que soit ce qu'il avait comme...
Exactement, parce qu'on était au tout départ, il y avait la suspicion Covid qui avait été déclenchée.
D'accord.
Alors donc moi, forcément, tout de suite, ça m'a interpellé, et j'écoutais les médias comme tout le monde, je me disais, mais où c'est qu'ils prennent leurs chiffres? Et donc pendant, on va dire, jusqu'à ce qu'il y ait eu l'obligation vaccinale, pendant un an, je me suis posé énormément de questions, et forcément, quand il y a eu l'obligation vaccinale, je l'ai refusé, à juste titre, puisque pour moi, ça ne justifiait pas le...
D'accord, vous n'avez plus été ambulancier, on ne vous a plus pris à ce moment-là.
Tout à fait, j'ai été suspendu et je suis toujours suspendu depuis le 20 septembre. Et là-dessus, je voudrais juste rebondir, c'est que quand on fait des marches, des manifestations, qu'on a la population qui nous dit qu'on emmerde le monde, on n'emmerde pas le monde. Moi, ce que je voudrais simplement que les auditeurs et toute personne qui entendent, on est là pour sauver. Sauver les âmes qui malheureusement ont été trop endormies par les médias, par la propagande qu'il y a eu là-dessus, et on ferait mieux de nous écouter.
Merci Jean-Bernard.
Ils vous ont écouté là, croyez-moi. Je voudrais juste une dernière question à Yom Najemayel. Je rappelle son livre, le livre de Yann Bali et Emmanuel Pesé sur Béchir Gemayel, vraiment à lire. C'est très intéressant, même si vous ne connaissez pas le Liban, et justement pour le connaître, juste un mot pour vous, le Liban, c'est demain, c'est une question d'avenir maintenant.
Bien sûr, le Liban, moi j'y crois. Moi je travaille pour un meilleur Liban, pour moi, pour mes enfants, pour ma famille, pour mes amis, pour mes compatriotes. Maintenant, ce qui se passe au Liban, c'est qu'on a beaucoup de... les gens se disputent, les gens qui ont les mêmes objectifs politiques se disputent pour des raisons d'ego, de personnes, de... et donc en fait ce qu'il faut et je pense que je vais faire partie de ces gens-là qui vont essayer de faire en sorte que l'union se fasse par le bas. Si les chefs ne s'entendent pas
par la base.
Voilà, si les chefs ne s'entendent pas, on va faire en sorte que l'union se fasse par le bas, sans les chefs. Si les chefs ne veulent pas s'asseoir ensemble, l'union se fera par le bas et on est obligé de passer par cette union-là.
Merci
beaucoup Yona Gemayel. Tout de suite, Brigitte Lahaye sur Sud Radio, restez avec nous.